J'aimerais parler de ce Pâques en commençant avec cette parole entre Marie-Madeleine et Jésus. Jésus rencontre Marie-Madeleine dans le jardin et lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit « Mais Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Et Jésus lui dit « Marie ». Elle se retourna et lui dit en hébreu « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ». Et Jésus lui dit « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu ». Cette parole que vous connaissez dans Jean 20 insiste à deux reprises sur le fait que Christ va monter vers Dieu. Et c'est une réalité tellement importante que j'aimerais qu'elle nous accompagne pas simplement ce jour de Pâques qui est une joie, mais qu'elle nous accompagne tout au long de l'année. Que ce soit une pensée pascale qui nous habite. Parce que Pâques, c'est quoi? On est d'accord, c'est la résurrection, la victoire sur la mort et cette montée en gloire de Jésus à la droite du Père. Victoire totale qui nous montre, et que ça devrait nous faire du bien, l'extraordinaire puissance de Dieu sur deux plans. Cette puissance. Et ça, on peut le lire dans Éphésiens 1, au verset 20. Cette puissance, Dieu l'a déployée au travers de Christ, numéro 1, en le ressuscitant des morts, d'accord? Numéro 2, les 1 et 2 sont pas dans le verset, on est d'accord, hein? Mais je souligne. Numéro 2, en le faisant asseoir à sa droite, à la droite de Dieu, dans les lieux célestes, au-dessus de tout. Toute domination, tout nom. Donc, il y a deux choses. Il est revenu à la vie. Il règne assis à la droite du Père. Pâques, c'est aussi notre victoire. Sur deux plans. Et on peut le lire dans Éphésiens 2, 5 et 6. Numéro 1, retour à la vie. Nous qui étions morts par nos offenses, Dieu nous a rendus à la vie avec Christ. Numéro 2, en nous faisant asseoir ensemble dans les lieux célestes, nous dit Paul, fils et filles, princes et princesses, assis dans les lieux célestes. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Un, il nous a ressuscités ensemble. Deux, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alors, il y a un pasteur qui posait la question, où Christ est-il assis? Et tout le monde a dit, du Père au-dessus de toute domination. Il venait de l'entendre. Et il nous l'a fait répéter. Et puis il a dit, et vous? Où êtes-vous assis? Assis dans les lieux célestes, à côté de Christ. Puis moi, j'écoutais ça, puis je me disais, non. Avec ma raison et ma logique, je me disais, cette idée, elle est vraiment trop simpliste et trop littérale. Hein. Tout simplement, parce qu'à l'époque, c'était il y a plusieurs années, beaucoup d'années, j'avais pas du tout saisi les implications et la profondeur de ce verset qui dit que nous sommes assis aux côtés de Christ en haut dans les lieux célestes. Et pour recevoir cette attestation pascale, en quelque sorte, que nous sommes assis dans les lieux célestes à côté de Christ, avec un accès direct au trône de la grâce, eh bien, J'ai besoin, et on a tous besoin, d'un renouvellement dans notre intelligence. Et c'est Paul qui nous y exhorte dans Romains 12. Ne vous conformez pas au monde d'aujourd'hui, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour que vous puissiez comprendre quelle est la volonté de Dieu, ce qu'il veut pour vous, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Vous savez, quand on va au théâtre, il y a plusieurs façons de payer son billet. Vous pouvez être sur le parterre, et là vous voyez au ras des pâquerettes la scène, ou bien vous pouvez être dans une loge tapissée de velours rouge et avoir une vue plongeante sur tout ce qui se passe. Bien sûr, la vue plongeante, c'est un peu plus cher. Eh bien, Christ nous invite à arrêter d'être au ras des pâquerettes et de voir nos vies et la situation de notre monde en perspective avec seulement notre intelligence. Il nous invite à monter à la loge de Dieu. Il nous invite à monter au balcon de Dieu pour avoir une perspective sur ce qu'on vit et sur ce qui se passe sur cette planète avec sa compréhension divine. Vous savez, le verset du jour, parce que moi je suis très 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 fidèlement YouVersion the Bible, c'est une application qui m'aide à lire ma Bible et à faire des petites méditations. Le verset du jour, c'était « Je vous ai dit ces choses, dit Jésus, afin que vous ayez la paix en moi. » Vous aurez des tribulations dans ce monde, mais prenez courage, j'ai vaincu. Moi, Jésus, j'ai vaincu. Et c'est vrai qu'on a besoin de la perspective de Dieu pour voir cette victoire. Parce que actuellement, avec tous ces bruits de guerre, avec tous ces bruits de division, avec toutes ces injustices, on se dit, mais on vit dans un monde de fous, et de plus en plus fous. Ça descend. C'est l'impression qu'on a. Et Dieu aimerait nous inviter à arrêter d'être au ras des pâquerettes. Parce qu'au ras des pâquerettes, on se démoralise, ou on se met en colère. « C'est pas juste, ça devrait pas être comme ça. » Ou bien on se morfond. Parce que ça marche pas comme ça devrait. Nous, on a la justice, et puis on voit que la justice, elle est pas faite sur cette terre. Alors, Dieu nous invite en ce jour de Pâques, et dans tous les jours qui vont suivre, à monter à son balcon pour recevoir une nouvelle compréhension. Pour recevoir son secours, pour recevoir une assurance pour nos lendemains. Je vais vous dire un secret. Des fois, on n'a pas la force, pas le courage de monter au balcon. On est découragé. Et quand c'est le cas, Dieu il nous prend avec sa bonne main et il nous fait monter. Il nous envoie un chant, ou il nous envoie un ami, ou il nous envoie un téléphone, ou un verset, ou je sais pas. Mais ça nous parle. Et ça nous fait monter au balcon. On est d'accord. Le renouvellement de notre intelligence ne se fera pas en 5 minutes. C'est un travail à long terme pour qu'on pense avec les pensées de Dieu et pas forcément avec le ras des pâquerettes de notre compréhension. Mais ça vaut le coup de se mettre en route et d'en faire une priorité dans nos vies. Moi, j'ai une amie qui a prié pour moi, et elle m'a dit, « Michel, appelle la sagesse ton amie, tous les jours, parce que tu en as besoin. » Et on a besoin de cette sagesse, de ce renouvellement. J'aime cette petite méditation qui a été donnée par pasteur Greg Crouchel, pardon pour la prononciation, enfin voilà. Et cet homme, ce pasteur, nous dit, oui, demandez le renouvellement de vos pensées, c'est très important, parce que ce que vous pensez va déterminer vos actions. Si vous vous dites, jamais je vais y arriver, c'est même pas la peine de commencer, eh ben, vos actions se ferment. Mais si vous vous dites, dans le nom de Jésus, je vais y arriver, oui, merci Seigneur pour la force et la sagesse que tu me donnes, vous vous mettez en route Et Seigneur, tu es le Dieu de persévérance, parce que moi, franchement, aide-moi. Vous allez voir que vos actions seront tout à fait différentes suivant ce que vous croyez, suivant ce que vous pensez. Et ce que vous croyez et que vous pensez va amener des actions, et ces actions, nous dit le pasteur Groschel, amènent chez nous un état d'âme, un moral. Évidemment, si je commence même pas, mon moral, il sera dans les chaussettes. Mais alors que je persévère et que Dieu ouvre des portes, je reçois une nouvelle force, un nouveau moral. On est d'accord, ce renouvellement se fait toujours avec Christ, avec Dieu. Est-ce que Dieu donne cette sagesse aux bons élèves, à ceux qui le méritent, à ceux qui travaillent à fond pour lui? Jacques nous donne la clé. Jacques 1. Dieu donne la sagesse à ceux qui la demandent. Et vous pouvez avoir un niveau de sagesse très très bas. Si vous demandez à Dieu la sagesse, les autres vont être étonnés. Ils vont dire, comment toi t'as fait ça? Waouh! Je me rappellerai toujours. Je devais aller prêcher à un petit déjeuner de dames et puis je suis arrivée toute décoiffée, mal maquillée. Et puis la dame qui m'accueille, elle me voit sortir du train puis elle me dit « Ouais, enfin, vous l'avez fait si souvent, ça pourrait marcher. » C'est Dieu qui nous aide. Il donne la sagesse à ceux qui demandent. Et il la donne généreusement, sans faire de reproche, en disant « Ouais, mais tu devrais savoir ça depuis le temps. » Non, il est là pour nous coacher, nous aider. Alors, ce pasteur Greg, dont j'ai lu les petites méditations, m'a fait du bien. Parce qu'il dit, pour renouveler vos pensées, trois angles d'attaque. On verra pas les trois, on n'en verra qu'un. Mais enfin, je vous les cite quand même, parce que ce pasteur, il a de la bouteille, et moi, il m'a fait du bien. Première façon d'avoir un renouvellement, c'est bien sûr le plongeon dans la parole de Dieu. On est d'accord. La parole renouvelle nos pensées, et le Seigneur nous rappelle ce qu'on a lu, entendu, reçu. Je me souviens, en tant que monitrice d'enfants, on faisait un club, et puis on avait clos l'année avec une petite fête à l'extérieur, où on avait fait des jeux de quilles, un genre de petite kermesse pour les 6-7 ans. Et puis des préados sont arrivés et ils ont démoli tous nos jeux. Et on a dû renvoyer les enfants. Et je me souviens, on était trois, on est rentrés la tête basse, très triste, sans même s'adresser la parole l'une à l'autre, on se sentait vraiment défait. Et à ce moment-là, dans ma tête, il y a une parole qui est venue. Je savais que c'était un verset, mais je savais pas où. Réjouissez-vous, réjouissez-vous. Je dis, ouais, ça c'est un verset. Je vois pas tellement le rapport avec ma situation actuelle. J'ai cherché dans la Bible et j'ai retrouvé où se trouvait ce fameux verset. C'est dans Matthieu 5, 16. 5, 12. Réjouissez-vous quand on vous insultera, quand on vous persécutera, quand on dira toutes sortes de mal à cause de moi. Car votre récompense sera grande dans les cieux. Vous voyez la parole qu'on a lu, qu'on a médité, qu'on a gardé, elle va venir nous aider dans les situations où on est au ras des pâquerettes. Et puis, le deuxième angle d'attaque, je vous le donne, mais on le développera pas, c'est la vie de louange dédiée à notre roi, par-delà les circonstances. Quand je suis rentrée de mon école biblique, il y a très longtemps, des dizaines d'années, j'avais aucune idée de ce que je devais faire après l'école biblique. Tous les autres avaient des super plans, puis moi, niette, rien du tout, je savais pas. Et figurez-vous que l'école biblique, elle avait un fer de lance, c'était l'écoute de Dieu. Et alors vraiment, tu sors gonflé à bloc quand tu as fait cette école sur l'écoute de Dieu en disant « moi je sais écouter Dieu », si vous voyez ce que je veux dire. Et là, c'était misérable, mais plus misérable, c'est difficile, plus honteux, c'est affreux. Et pendant un mois, j'ai tourné en rond dans la maison de mes parents, en ayant mais vraiment aucune idée de ce que je devais faire. Et puis, un matin, je me souviens, je me suis dit, tant pis, c'est égal, je veux quand même chanter et louer le Seigneur. Et puis, j'ai chanté des chants de louange, voilà. Et c'est à partir de ce moment-là que ça s'est débloqué. Le Seigneur m'a dit, reprends un travail. Je sais que c'est pas ce que tu voudrais, mais reprends un travail salarié et replonge dans la vie normale. C'est ça mon plan pour toi, pour l'instant. Ah, mes amis, j'étais infiniment soulagée. La louange de Dieu permet à Dieu de nous éclairer, de nous bénir, de nous montrer le chemin. Et le dernier rang d'attaque, c'est celui qu'on va attaquer ensemble. Vous êtes prêts, vous avez attaché vos ceintures, tout va bien. C'est une relecture des événements, une réflexion guidée par le Saint-Esprit, l'éclairage du Saint-Esprit, où on monte au balcon. Vous savez, quand on voit trouble, on va chez l'oculiste et il règle vos lunettes, il vous donne des nouveaux verres. Et alors là, vous dites, c'est super, je vois de nouveau bien les formes, les couleurs, c'est sensationnel, ça change. Avec Dieu, il veut vous mettre des lunettes sur le nez alors que vous êtes au balcon, à ses côtés, proche de son cœur. Il veut vous montrer comment faire face aux épreuves. Vous savez, des fois les épreuves, on ne sait pas comment les gérer. On va au balcon puis on est totalement à plat sur la carpette, au lieu de regarder en bas. Et c'est ce qu'a vécu Ézéchias. Ésaïe vient vers lui et lui dit, mets tes affaires en ordre, tu vas mourir. Ézéchias s'effondre en larmes et dit, Seigneur, j'ai toujours fait ta volonté, j'ai toujours voulu t'obéir, et maintenant c'est fini. Et il se met à pleurer, 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 pleurer. Et Dieu, quand il le voit sur la carpette en train de pleurer, il fait revenir Ésaïe, puis Ésaïe lui dit, bon, Dieu te donne encore 15 ans de vie, c'est bon, c'est pas la peine de mettre tes affaires en ordre, tu repars. L'éclairage de Dieu est fantastique parce qu'il est, comment dire, cœur à cœur avec toi. C'est pas un truc magique ou c'est déterminé, mais c'est en rapport avec ce que tu penses. Et il veut t'aider à décoder, déchiffrer le sens et les remettre en route pour un Dieu qui a le dernier mot. J'aimerais vous parler de quelqu'un qui s'appelle Paul parce que lui, il vivait au balcon de Dieu. Lui, il savait pourquoi il était sur cette terre et il l'a résumé en une phrase. Je fais tout pour le salut du plus grand nombre. C'était ça son logo. C'était ça qui lui permettait de voir la perspective de Dieu. Et son but était même stratégique. Si je peux toucher les leaders, si je peux leur prêcher, s'ils se convertissent, le peuple va suivre. C'était quelqu'un de déterminé, vous voyez? Et souvent, bien souvent, au lieu de se trouver prédicateur auprès des autres autorités, il se trouvait enchaîné, prisonnier, face aux autorités. Mes amis, c'était pas vraiment la porte ouverte qu'il aurait souhaité. C'était pas vraiment la porte ouverte qu'il aurait pensé. Et il y a eu beaucoup de crève-cœur dans sa vie. Et parfois, il y a des crève-cœur dans nos vies. Si j'ai ce diplôme, j'aurai cette place de travail. Vous passez le diplôme, vous bossez, vous réussissez. Et la place de travail est accordée à quelqu'un qui n'a même pas le diplôme. Ou bien vous rêvez de vous marier, mais la bonne personne ne se profile pas et vous restez célibataire. Ou bien vous vous mariez. Et catastrophe, tout se passe comme jamais vous auriez imaginé. Alors, il y a aussi des sujets de prière où on ne voit pas la réponse. C'est long, ça prend des années. Ma grand-maman, elle a prié 20 ans pour voir la conversion de mon papa et elle l'a vu. Mais elle a prié pour un autre de ses fils qui, lui, est mort sans connaître Christ. Il y a des crève-cœurs, mais on peut rester au balcon. Alors qu'il est emprisonné, Paul fait face à des choses très difficiles. Il écrit aux Philippiens pour susciter la prière et donner des nouvelles alors qu'il est emprisonné. Qu'auriez-vous écrit à sa place? Je vous donne une version nouvelle. Je veux que vous sachiez, frère, que ce qui m'est arrivé m'a réellement démoli. Je voulais annoncer la bonne nouvelle et prêcher aux autorités romaines, mais rien n'a pu avoir lieu. Et à cause de l'enfer que j'ai traversé, mais j'ai décidé que la prière ça marche pas et que plus jamais je ne mettrai les pieds dans une église. A-t-il dit ça? Non, on est d'accord. Voilà ce qu'il a dit. Je veux que vous sachiez, frère, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. En effet, dans le prétoire, partout ailleurs, personne n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Les liens, on est d'accord, c'est être enchaîné. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Je leur donne l'exemple et ils suivent. Alléluia. Autrement dit, j'avais un plan, aller prêcher aux autorités, mais Dieu avait un meilleur plan, bien différent de ce que j'avais prévu. Je me suis retrouvée en prison. Et il m'a bénie dans cette prison avec des soldats enchaînés à moi, qui n'ont pas d'autre choix que d'écouter Christ. Et tous les 8 heures, il y a une nouvelle fournée de gardiens à qui je peux prêcher. Et on dit que c'est moi le prisonnier. Et en plus, ils doivent faire un rapport aux autorités de ce que je leur raconte. Fabuleux! Dieu agit d'une façon étonnante. On ne pourra pas changer les circonstances, vous êtes d'accord? Mais on peut toujours demander à les percevoir avec la perspective de Dieu. On ne peut pas changer le deuil, on ne peut pas changer la maladie, on ne peut pas changer le chômage, on ne peut pas changer ces choses, mais Dieu peut nous donner sa perspective pour que, au lieu que ça nous démolisse et qu'on dise « jamais plus je remettrai les pieds dans une église » puisque c'est comme ça, on puisse voir avec la perspective de Dieu. Ça doit arrêter de nous écraser. Je travaille avec les enfants, comme vous le savez, et je travaille aussi en Afrique. Je dirigeais les plein air des enfants et en parallèle avec le plein air des adultes, mais moi j'étais du côté enfant. Et un jour, j'ai demandé aux responsables du camp si lors des groupes de prière du matin, ceux qui travaillent parmi les enfants pouvaient se réunir ensemble pour la prière, de façon à cibler le travail futur. Et ça a été niette, refusé totalement. Et je me souviens, j'étais dans la cour et j'avais les larmes aux yeux. Je me suis dit, il n'y aura pas de prière. J'ai dit au Seigneur, bah, tu vois, cette fois, le diable, il a gagné. Est-ce que j'étais au balcon? Non, j'étais au ras des pâquerettes. Et Dieu a eu pitié. Il m'a pris comme ça, et il y a un chant qui est venu dans ma tête, dans ma mémoire. Et vous connaissez ce chant, c'est « Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oui, prends tout, Seigneur. » Je me souvenais pas tous les versets, mais ça, c'est m'est revenu fort. Et c'est comme si Dieu disait, laisse tomber, je m'en occupe. Ça m'a réconforté. J'ai dit, Seigneur, je comprends pas, mais je te fais confiance. Et il est arrivé que dans les rapports de prière du matin, les enfants aient été ciblés. Et croyez-moi, en Afrique, c'est pas un petit miracle, c'est un grand miracle, parce que les enfants sont considérés comme quantité négligeable. C'est pas dans la mentalité qu'on s'investisse et qu'on fasse pour eux. C'est en train de changer, je suis d'accord. Monter au balcon, c'est pas toujours renonce. Je vous donne un autre exemple pour compenser un peu l'idée. Une autre fois, toujours en Afrique, toujours avec les enfants, le bus qui devait nous emmener à l'évangélisation arrivait toujours avec plus de retard, 15, 20, 30 minutes, 60 minutes de retard. Et puis nous, bien gentils, on attendait le bus. Et à ce moment-là, le livre que j'étais en train de bouquiner en attendant le bus s'appelait « Stand up and fight ». Lève-toi et bats-toi. Et ça a fait tilt. Je me suis dit, ouh, je peux pas laisser passer ce temps qui est précieux pour l'évangélisation. J'ai pris l'argent que j'avais en réserve, je l'ai donné à mon chef d'équipe, je lui ai dit, monte dans un taxi Bruce, va sur le terrain. Mes amis, il faut qu'on prie pour que Dieu renouvelle notre intelligence face aux situations qui ne sont pas justes, face aux situations qui nous attristent, face aux choses qu'on ne comprend pas. Et il va le faire. C'est pas un oreiller de paresse, ce balcon, mais c'est un endroit où Dieu parle. Mais il parle avec une, comment dire, comme à Pâques. Si tu veux voir la résurrection, ça passera peut-être par la croix. Et ça, Paul l'avait compris. Parce qu'aux Philippiens, au chapitre 1er, verset 18, voici la parole qu'il leur communique. Christ est annoncé. Je m'en réjouis, et je m'en réjouirai encore, parce que je sais, et il est en prison, que ça tournera à mon salut, grâce à vos prières, grâce à l'assistance de l'Esprit de Jésus. Et selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant comme toujours, dans mon corps, avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort, car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Christ sera glorifié. Je termine avec ce dernier exemple. En tant qu'évangéliste d'enfants, il y a une vingtaine d'années ou une trentaine d'années, j'ai été écoutée à un séminaire qui a été lancé par Bill Wilson, qui est un évangéliste américain auprès des enfants. Haut de gamme. Il a une église de 20 000 enfants et un supplément de 5 000 adultes qui sont les parents des enfants convertis. Alors je me suis dit, waouh, je vais aller écouter ce gars, je vais attraper sa méthodologie et j'aurai 20 000 enfants à ma suite. Vous voyez, je doutais de rien. Et à ma détresse et à ma frustration, il a refusé de nous donner la façon dont il s'y prenait, sa méthodologie. Il a dit non, je veux travailler votre motivation intérieure. Bon, moi, je l'aime, ma motivation. Mais ce que j'avais pas compris, c'est jusqu'où elle doit aller, cette motivation. Cet homme, il vit dans le Bronx, dans un appartement fréquenté par les rats. On lui a tiré dessus. La balle a traversé sa joue et est ressortie. On lui a lancé des briques. Il y a eu un œil qui a été complètement retourné. Et certaines de ses collaboratrices qui évangélisaient les enfants ont été violées. Donc vous voyez, ça va loin. Mais jamais il a renoncé. Et il a continué. Et mes amis, moi ça m'a parlé. Et je me suis dit, waouh, 20 000 enfants, mais ça passe par la croix. Ok, faut réfléchir. Paul nous invite à marcher à sa suite. Et Christ veut nous faire monter au balcon de Dieu. Et dans ce balcon, on va y rencontrer Ézéchias, qui était consolé. On va y rencontrer Paul, qui fonçait. On va y rencontrer Dieu, qui nous comprend et qui veut nous donner son éclairage. Et c'est pour ça que j'aimerais terminer en disant, prions juste un petit moment pour que Dieu nous aide. Seigneur, dans le psaume 61, tu dis, du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne peux atteindre. Merci, parce que tu me parles et tu me dis, approche-toi du trône de la grâce, afin d'obtenir de l'aide, afin de trouver grâce, afin d'être secouru dans mes besoins. Et si c'est vrai que dans ce monde, on aura à souffrir, Seigneur, nous voulons nous accrocher à cette parole qui dit, je suis avec toi, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Merci. parce que sans toi, on ne peut y arriver. Mais parce que tu es ressuscité, parce que tu es assis à la droite du Père, parce que tu m'invites à venir à tes côtés, tout peut changer. Et Seigneur, par avance, pour cette année 2025, rends-la et change mon regard sur tout ce que j'ai pas compris, sur tout ce qui me fait mal, parce que tu es mon Dieu et que tu me connais. Amen. Dieu vous bénisse et vous garde et vous donne de vivre cette proximité par la parole, par la louange et par le balcon. Amen.